Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point actualité, la Turquie réunit aujourd'hui à Istanbul les ministres des Affaires étrangères de 7 pays musulmans pour tenter de peser sur l'avenir de Gaza en les mobilisant sur la reconstruction du territoire palestinien. C'est notre dossier du jour à suivre. Sur la situation au Soudan, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé le monde islamique à se mobiliser en faveur du pays et des dizaines de milliers de civils piégés par le conflit depuis la prise de la ville d'El Fasher. Le Hamas semble déterminé à respecter l'accord de cessez-le-feu à Gaza, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, quelques heures avant une réunion de pays musulmans à Istanbul sur Gaza dans la journée. Et les autorités israéliennes ont annoncé avoir identifié les dépouilles rendues par le Hamas hier comme étant celles de 3 soldats enlevés le 7 octobre 2023. Dans le Proche-Orient, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a inauguré samedi devant les gens venus du monde entier le grand musée égyptien, le plus grand musée du monde dédié à une seule civilisation, selon ses mots. Il présente les pièces les plus emblématiques de l'époque des pharaons, des statues aux sarcophages, des outils aux bijoux. En Afrique, sur la situation au Soudan, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé le monde islamique à se mobiliser en faveur du pays et des dizaines de milliers de civils piégés par le conflit depuis la prise de la ville d'El Fasher. Le roi du Maroc a qualifié de changement historique un vote au Conseil de sécurité de l'ONU apportant son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental, le théâtre depuis des décennies d'un conflit entre Rabat et les indépendantistes de Sahraoui du Polisario soutenu par Alger. Et dans l'actualité en France, le ministre de l'économie Roland Lescure a annoncé qu'il demanderait l'interdiction d'accès de Chine en France si le géant chinois vendait à nouveau des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Chine a assuré les avoir retirées de sa plateforme de vente. C'est la fin de votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. La Turquie réunit ce lundi à Istanbul les ministres des Affaires étrangères de pays musulmans. Objectif, tenter de peser sur l'avenir de Gaza, où la situation sécuritaire et humanitaire reste précaire malgré la trêve en vigueur. Les ministres de la Turquie, d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de la Jordanie, du Pakistan et d'Indonésie avaient été reçus par Donald Trump fin septembre à New York. C'était en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et on fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Et oui, le président des États-Unis avait présenté 6 jours plus tard son plan pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu, plusieurs fois violé, est entré en vigueur le 10 octobre dernier. En amont de ce lundi, le chef de la diplomatie turque a reçu samedi à Istanbul une délégation du bureau politique du Hamas, une délégation emmenée par le négociateur en chef du mouvement islamiste palestinien.
Et le ministre turc a tapé du poing sur la table au début du forum. Nous devons mettre fin au massacre à Gaza. Un cessez-le-feu à lui seul ne suffit pas et il insiste de nouveau pour une solution à 2 États, François-Xavier.
Et oui, nous devons reconnaître que Gaza doit être gouverné par les Palestiniens et agir avec prudence. Ce sont ces mots. Le chef de la diplomatie turque qui accuse Israël de chercher des prétextes pour rompre le cessez-le-feu, il compte insister sur un renforcement de l'aide humanitaire à Gaza. Or, la Turquie multiplie les contacts diplomatiques avec les pays de la région. Ankara cherche à infléchir la position pro-israélienne des États-Unis. Les dirigeants israéliens ont plusieurs fois exprimé leur refus de voir le pays participer à la force internationale de stabilisation à Gaza. Le plan de Donald Trump prévoit que cette force, formée principalement de troupes de pays arabes et musulmans, doit se déployer à Gaza à mesure que l'armée israélienne s'en retirera. Le ministre israélien des Affaires étrangères affirme que seuls des pays jugés impartiaux vont rejoindre cette force. La Turquie, qui n'est bien entendu pas considérée comme telle par l'État hébreu.
Merci François-Xavier pour toutes ces précisions. Et notre second dossier du jour est consacré au Maroc. Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté vendredi soir son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Un tournant diplomatique salué comme historique par le Maroc. Un vote à l'initiative des États-Unis en charge de ce dossier au Conseil. La résolution a été adoptée par 11 voix pour, aucune contre et 3 abstentions dont l'Algérie. Alger avait déjà regretté en avril la réaffirmation par Washington de son soutien à Rabat. Et sur le rôle des États-Unis, Emmanuel Dupuis, spécialiste de ce dossier, président de l'IPSE.
Le poids du président américain a été d'autant plus important que dès décembre 2020, il avait reconnu la marocanité du Sahara en annonçant l'ouverture, qui n'a pas été jusqu'à présent opérationnelle, d'un consulat à Darla, dans une des deux provinces du sud marocain. Et bien évidemment, ça a été rappelé par le représentant américain à l'ONU, Mike Waltz, avec l'idée que les États-Unis entendaient développer désormais leur activité économique dans la région, voire même, mais cela reste assez flou à l'heure où nous parlons, la mise en place d'un éventuel plan de paix. C'est comme ça que Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ont évoqué l'idée que d'ici deux mois, les États-Unis proposeraient un plan de paix entre l'Algérie et le Maroc. S'agit-il du vote, la première étape de ce plan étant cette résolution 2797, précisant que la discussion se fait désormais dans le cadre souverain marocain ou autre chose, pour l'instant, nul ne peut le dire.
Sachant que le roi souligne que le Maroc ne brandit pas ces changements comme un trophée et ne souhaite nullement attiser les antagonismes ou accentuer les divisions, c'est ce qu'il indique. C'est un risque après ce vote ?
Il y a ni vainqueur ni vaincu, a-t-il rajouté et rappelé que désormais il fallait trouver une solution politique dans le cadre d'un dialogue proposé par le Maroc, c'est-à-dire celui d'une autonomie politique, économique et sociétale. Alors il n'y a pas de retour en arrière puisque ça a été voté par 11 voix, c'est-à-dire 2 voix de chance que la majorité requise au niveau du Conseil de sécurité. On le sait, le dossier marocain a beaucoup avancé ces dernières années avec de réels et profonde réussite diplomatique. À l'heure où nous parlons, 120 pays sur les 193 de l'ONU reconnaissent la légitimité et la souveraineté marocaine sur le Sahara, c'est-à-dire que 164 autres ne reconnaissent pas la légitimité de la République arabe sahraouie démocratique, c'est-à-dire 85% des pays onusiens, avec une grande focale sur le continent africain, avec 40 pays qui ont retiré leur reconnaissance à la République arabe sahraouie démocratique. Donc il n'y a pas de retour en arrière, me semble-t-il, il y a plutôt une volonté d'aller de l'avant. Alors quel sera cet avant ? Quel projet d'autonomie doit être mis en exergue ? Le projet qu'a proposé le Maroc remonte au 11 avril 2007. Donc peut-être qu'y a-t-il des ajustements en termes de dévolution de pouvoir, en termes de partage des responsabilités entre le pouvoir central à Rabat et les provinces du Sud, qui après tout s'inscrivent dans un processus de régionalisation. La constitution du Maroc l'indique comme telle, de régionalisation avancée, du reste, la constitution de 2011 le précise comme telle, et puis bien évidemment en tenant compte du voisinage. Non seulement l'Algérie, mais également la Mauritanie, et un voisinage plus éloigné, les pays enclavés du Sahel. Donc il y a évidemment à se mettre désormais autour de la table pour avancer vers cette solution politique que la résolution a appelé ses voeux.
Vous venez d'écouter Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, au micro de François-Xavier de Calonne. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information, et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.